Père céleste, nous nous présentons devant toi parce que nous voulons être à l'écoute de ta parole. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos esprits, nos oreilles, notre entendement pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Nous sommes, Seigneur, à tes pieds et nous souhaitons que tu nous parles. Alors aide-nous, Seigneur, à éloigner de nos esprits tout ce qui l'encombre actuellement, les soucis, les projets, les personnes à qui nous pensons, les choses qui nous pèsent particulièrement. Et Seigneur, nous voulons, dès à présent, maintenant, à cet instant, les déposer à tes pieds. Parce que Seigneur, tu es capable, toi, de prendre ce qui nous pèse actuellement. Je te prie, Seigneur, que nous soyons attentifs et disponibles pour toi, maintenant. Fais-le dans chacun des cœurs, Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Manu. Normalement, ça devrait fonctionner. Clique une fois dessus pour voir. Allez, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. On entend beaucoup cette expression dans notre société aujourd'hui, humainement parlant. Vous l'avez déjà entendu ? Il y a deux définitions à cette expression, humainement parlant. La première, si ça fonctionne, alors je vais te laisser le défiler, Manu, parce que sinon ça ne va pas marcher. Je sens qu'il va falloir défiler. Ouais. La deuxième. Donc on peut le faire de deux choses différentes, définir ça de deux choses différentes. La première, c'est considérer les choses d'un point de vue humain. Et la deuxième, c'est de comparer avec les capacités d'un être humain. Considérer les choses d'un point de vue humain, ça veut dire qu'on peut considérer quelque chose d'un point de vue politique, d'un point de vue technique, d'un point de vue philosophique et aussi d'un point de vue humain. Par exemple, si je prends un exemple qui accorde tout le monde, la crise des gilets jaunes, d'un point de vue humain, ça a été très bénéfique. Parce que ça a permis, sur les ronds-points, de réunir des gens qui n'avaient pas d'appartenance politique, qui n'avaient pas de hiérarchie sociale, ils étaient tous réunis à un seul endroit et ils se sont fait du bien comme ça. Donc humainement parlant, la crise des gilets jaunes a quelque chose de positif. C'est un point de vue. C'est un point de vue. L'autre définition de humainement parlant, c'est comparer quelque chose avec des capacités humaines. Par exemple, ce problème est impossible à résoudre humainement parlant. Ou alors, cette pierre est trop lourde à soulever humainement parlant. Donc, on fait appel à des machines pour résoudre le problème. Mais parfois, quand on lit la Bible, quand on voit comment Dieu fait les choses, quand on voit un miracle ou quand on voit quelque chose d'extraordinaire, on se dit, oui, c'est bien, mais humainement, c'est difficile à croire. Quand on lit une vérité biblique comme aime ton prochain comme toi-même, on se dit, oui, c'est vrai, il faut le faire, mais humainement, c'est difficile à faire. Humainement parlant. Et ce qui est bizarre quand on analyse cette expression et les réflexions qui en découlent, on se rend compte que c'est comme si l'action de Dieu était opposée à l'action des hommes. C'est comme si on dit Dieu peut le faire, mais pas les hommes. Comme si aimer son prochain, Dieu peut le faire, mais les hommes, non, c'est pas possible. Et lorsque la Bible nous raconte l'histoire de certains hommes, comme Abraham, l'apôtre Paul, Moïse, qui ont fait des choses extraordinaires, qui étaient des hommes extraordinaires, on se dit, oui, mais ça, c'est normal, Paul, par exemple, c'est le Superman de Dieu, donc de toute façon, il peut faire des choses, mais moi, humainement, je ne peux pas le faire. Et Jésus, alors ? Ce qu'il a fait, c'était humainement parlant ou divinement parlant ? Quand Jésus a aimé, il a aimé humainement parlant ou divinement parlant ? Pourtant, quand on voit ce qui s'est passé avec Jésus, Jésus, il était considéré par les autres comme un homme. Et d'ailleurs, quand il a réclamé être le fils de Dieu, ça lui a valu des personnes, des violentes colères et de vouloir le mettre à mort en le lapidant. Oui, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Jésus a eu des sentiments. Jésus a pleuré. Jésus s'est emporté. Jésus a eu faim. Il a eu soif. Il a connu la fatigue. Il a connu l'angoisse. Il a connu le sentiment d'abandon. Il a connu la joie aussi. Il a connu la compassion pour les autres, l'amour pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Il a ressenti énormément d'émotions. Et quelque part, d'où viennent ces émotions ? Elles viennent de Dieu. Dieu nous a donné ces émotions. À nous de ne pas considérer ce côté humain, ce côté émotionnel, comme quelque chose de seulement humain, mais quelque chose qui nous vient de Dieu. Et cette vision humaine des choses n'est pas étrangère à Dieu. L'expression « humainement parlant », ça ne veut pas dire que c'est en dehors de Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui est notre humainement parlant aussi. C'est vraiment intéressant de considérer cette chose-là, et encore plus dans l'histoire de Jonas. Dans l'histoire de Jonas, Dieu va utiliser le côté humain de Jonas pour lui faire comprendre des choses. Dans ce chapitre 2 qu'on va étudier aujourd'hui, Dieu va faire appel à trois aspects de la personnalité de Jonas pour le faire avancer dans sa foi et l'amener à la repentance. Lorsque Dieu nous appelle nous aussi à la repentance, il va faire appel à notre humainement parlant. Lorsque Dieu nous amène à la repentance, il va travailler notre côté émotionnel, notre côté rationnel et notre côté spirituel. C'est le principe de travail de Dieu. Et je veux lire avec vous Jonas chapitre 2. J'entends pas des feuilles tournées, peut-être vous cherchez pas Jonas parce que vous avez oublié votre Bible ou alors vous l'avez sur votre téléphone, c'est beaucoup plus facile et plus discret. Jonas chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant : Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu des séjours des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'entouraient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ah, voilà enfin le poisson tant attendu. Si vous étiez là dimanche il y a 15 jours, le suspense était incroyable. Qu'allait-il arriver à Jonas plongé dans la mer ? C'est pas vrai, c'est pas un suspense parce que tout le monde le sait. Et c'est même fou quand même d'arriver à résumer l'histoire de Jonas avec une histoire de poisson, alors qu'en fait, il n'y a que 2 versets qui en parlent, le premier et le dernier verset de ce chapitre 2. 2 versets sur 4 chapitres. C'est pas beaucoup. Alors il y a peut-être d'autres choses à apprendre de Jonas que juste cette histoire du poisson. Alors encore une fois, ce matin, je vais vous demander de faire un effort. Vous allez me dire, vous en faites plein. Oui, un effort ce matin. L'effort de se dire qu'on ne connaît pas grand-chose de Jonas. On ne connaît pas grand-chose de Jonas. Et Dieu, dans sa bonté, veut se révéler à nous dans l'histoire de Jonas. Est-ce que vous êtes prêts, avec moi, à vous dire que vous ne savez rien de Jonas et qu'aujourd'hui, Dieu veut vous parler. Dieu veut se révéler, il veut nous reprendre, il veut nous corriger, il veut nous guider pour notre vie quotidienne au travers de l'histoire de Jonas. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Voilà que Jonas s'est fait manger par le poisson. Je ne sais pas comment vous imaginez ça, mais dans les représentations de Jonas, je ne sais pas si vous avez des dessins ou des films, on imagine un Jonas dans la grande bouche du poisson, peut-être assis dans un coin ou peut-être en train de faire les 100 pas en marchant sur la grande langue du poisson, avec autour des choses qui flottent, des caisses, des morceaux de bois, des algues, des restes de poisson à moitié digérés. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la réalité. À mon avis, Jonas, il est dans le ventre du poisson, il est dans son estomac. Il est coincé comme ça. Il n'a pas été encore digéré parce qu'apparemment il est capable de penser et de parler. En tout cas, il émet une prière. Mais apparemment, il est quand même dans un endroit qui n'est pas forcément très confortable. Mais c'est assez simple finalement, ce chapitre 2, il peut être résumé en 3 points. Jonas se fait manger par le poisson, il prie et Jonas se fait recracher par le poisson. Ça s'arrête là, hein, chapitre 2, il n'y a que ça. En fait, dans ce chapitre, je pense qu'on se trompe sur 3 choses. 3 choses peut-être que vous avez toujours cru à propos de Jonas. Et j'aimerais aujourd'hui démonter vos a priori, si vous êtes d'accord. Si tu me passes la slide suivante, Manu... Tu crois que ça marche? Non. Clique dessus. Yes. 3 affirmations. La première, donc les 3 étapes. Dieu a puni Jonas en le faisant avaler par un poisson. Deuxièmement, Jonas s'est repenti par peur de se faire digérer tout cru. Et troisièmement, le poisson a recroché Jonas parce qu'il s'est repenti. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 3 affirmations? En fait, ces 3 affirmations sont totalement fausses. C'est une vision beaucoup trop simpliste de Jonas. C'est peut-être les idées qui nous viennent quand on lit Jonas, mais ce sont des affirmations fausses. Et d'ailleurs, ça va à l'encontre du message global du livre de Jonas. Parce que le message du livre de Jonas ne parle pas de punition, il parle de grâce. Et vous allez le voir au fur et à mesure de l'étude de ce livre de Jonas, vous allez voir que le livre de Jonas parle de la grâce de Dieu, mais jamais du jugement. Premier point, Dieu n'a pas puni Jonas en le faisant avaler par un poisson, il l'a sauvé grâce au poisson. Et oui, je vous rappelle que Jonas avait été jeté par-dessus bord par les marins. Il était dans l'eau. Et à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était très rare pour les gens de savoir nager. Donc il était en train de couler à pic. Il coulait, il coulait, il coulait. C'est à ce moment-là que Jonas a ressenti, au plus fort de lui-même, ce sentiment de détresse. Ce sentiment d'être abandonné. Il n'arrivait plus à respirer. Ses poumons allaient éclater. Il coulait. Seul, dans le noir, dans l'eau. Il a cru mourir. Il était sûr de mourir. Et il descendait, et plus il descendait dans les profondeurs de la mer, plus il savait que son sort en était jeté. Il allait mourir. Et c'est là qu'il a fait appel à l'Éternel. Et c'est ce qu'il dit au verset 3, « J'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. » Alors comment pouvait-il se sentir puni dans le ventre du poisson? Au contraire, il se sent secouru et protégé à l'intérieur du poisson, parce qu'il n'est plus en train de mourir, Il est dans le ventre du poisson, il n'est plus en train de tomber dans les profondeurs de la mer, il est dans le poisson. Il est secouru et sauvé. Du coup, impossible d'affirmer que Jonas s'est repenti par peur de se faire digérer par le poisson. Dans le ventre du poisson, si vous avez bien suivi depuis le premier chapitre, Jonas a fait ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Prier le Seigneur. Il aurait dû prier dans le bateau quand il a vu qu'il y avait la tempête. Mais il était en train de dormir dans la cale. Il aurait dû prier lorsque les marins, après avoir tiré au sort et que le sort est tombé sur lui, qu'il était confondu parce que c'était de sa faute, si la tempête était là, et il a dit « oui, c'est de ma faute », il aurait dû prier. Il aurait dû se mettre à genoux à ce moment-là et demander pardon. Il ne l'a pas fait. Et même, il a préféré mourir plutôt que de prier et de demander pardon. Parce qu'il a dit « jetez-moi par-dessus bord ». Du coup, est-ce que Dieu a fait en sorte que le poisson recrache Jonas parce qu'il s'est repenti? Alors oui, on voit que dans sa prière, Jonas promet d'offrir des sacrifices, ça pourrait être un signe de son désir de repentance, mais je crois que Jonas l'a délivré, Dieu a délivré Jonas du poisson parce que Jonas avait compris qui était Dieu. Parce que c'était l'objectif de Dieu de se faire connaître à Jonas. Le problème principal de Jonas, c'est qu'il refusait d'accepter que Dieu avait de la compassion. Il n'acceptait pas la compassion de Dieu. Et que Dieu pouvait aussi bien pardonner à Jonas qu'il pouvait pardonner aux Ninivites. Et c'est qu'une fois que Jonas a accepté cela, que Dieu était un Dieu de compassion, que Dieu a ordonné au poisson de le recracher. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais parfois Dieu nous emmène dans des endroits particuliers. Dieu nous emmène dans des endroits où il veut nous parler. Où il veut nous parler et où il veut qu'on reconnaisse qui il est. Pour Jonas, c'était dans le ventre d'un poisson, je ne sais pas pour vous. Parfois ça peut être sur un lit d'hôpital. Parfois ça peut être dans un ascenseur en panne. Parfois ça peut être dans une grotte où on a trouvé refuge pendant un orage. Pour d'autres encore, c'est du plus profond de la détresse, dans la dépression par exemple. Et Jonas dit « du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. » La détresse. C'est le premier sentiment qui nous attrape quand il y a un obstacle grave qui est devant nous, quand un malheur arrive. C'est un sentiment incontrôlable. C'est une peur, une angoisse, la panique. Et ce sentiment-là de détresse, ce sentiment de peur, c'est Dieu qui l'a créé. Ce sentiment n'échappe pas à Dieu. Ce sentiment, il veut l'utiliser pour sa gloire. Et ce qui est merveilleux dans notre relation avec Dieu, c'est qu'il ne veut pas seulement provoquer la détresse dans notre cœur, justement lorsque on est comme Jonas rebelle à sa voix, mais il désire utiliser cette détresse pour travailler sur nous, pour travailler notre cœur. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, ce qui manquait à Jonas, c'était de la compassion. Jonas avait zéro compassion. Zéro compassion pour les marins, qui avait tout fait pour éviter que le bateau coule, qui se débattait contre la tempête, et zéro compassion pour les habitants de Ninive. Pareil. J'ai pas envie d'y aller. Voilà ce qu'il a répondu à Dieu. En fait, la seule chose qu'il préoccupait, c'était de ne surtout pas aller à Ninive. Donc, il est parti dans l'autre sens. Beaucoup de gens parlent de la mort comme d'une fatalité. Oh, la mort, ça ne me fait pas peur, elle arrivera bien un jour, le jour où elle arrivera sera terminé. Mais lorsque la mort est effectivement là, lorsqu'on est face à la mort, souvent on a un autre langage. C'est le moment où on crie à Dieu. C'est le moment où soit on le maudit, soit on crie à lui pour qu'il nous sauve. Beaucoup de gens crient à toutes sortes de choses quand ils sont dans le malheur. Mais lorsqu'on crie sincèrement à Dieu, il y a toujours une réponse. Il y a toujours une réponse. Alors voilà pour le côté émotionnel. Et maintenant, Dieu fait aussi appel à notre côté rationnel. Et on le voit dans la suite des versets, versets 4 à 7, parce que Jonas fait une description de tout ce qui lui est arrivé. Et donc Dieu ne fait pas seulement appel à ses sentiments, mais il fait aussi appel à son côté rationnel. Et Jonas nous montre qu'une fois le sentiment passé, le côté rationnel prend le dessus. Et c'est souvent comme ça qu'on est, quand on est face à une difficulté particulière. On a d'abord l'émotion, la peur, l'angoisse, puis après on dit, bon, ok, on se pose, attends, qu'est-ce qui va vraiment arriver ? Et quand le côté rationnel prend le dessus, il y a trois possibilités qui s'offrent à nous. Soit on méprise l'avertissement, en estimant qu'on est sous contrôle, je maîtrise, tout va bien. On méprise l'avertissement de Dieu, si c'est un avertissement de Dieu. Deuxièmement, soit on se décourage en pensant qu'on est bon à rien, que de toute façon, ça ne sert plus à rien de se battre. Troisièmement, on se soumet à Dieu. Troisième possibilité. Et c'est ce qu'a vécu Jonas, dans l'ordre. Parce que en 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, vous pensez bien que Jonas, il a eu le temps de cogiter. Il a eu le temps de réfléchir à sa situation. Une fois la peur de mourir passée, il s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai mal agi? Quel est mon péché? C'est ce qu'on devrait faire si aujourd'hui on sent qu'on fuit la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas en train de vous attirer dans une direction précise? Est-ce que Dieu n'est pas en train de vous transmettre un message précis dans votre malheur? Est-ce que vous n'avez pas fait attention aux avertissements de Dieu? Et en réponse à ces questions, notre côté rationnel prend le dessus. Et un des premiers réflexes qu'on pourrait avoir, c'est de mépriser cet avertissement. Mais non, mais je me fais des idées. Ce que je vis n'est pas du tout un avertissement de Dieu. On dit qu'on est dans son bon droit, on dit qu'on on veut pas se laisser marcher sur les pieds, c'est normal de réclamer ce qui nous est dû, c'est normal la situation dans laquelle on est. C'est l'attitude de Jonas quand il est parti en direction de Troas. Jonas, plus il avançait, plus les portes s'ouvraient, plus les feux étaient ouverts. Vous avez remarqué ? Il arrive au port, le bateau était là, un bateau qui justement partait dans une direction opposée. Les marins ont accepté qu'il monte dans le bateau. Il avait justement l'argent qu'il fallait pour payer son voyage. Tout concordait. Pourtant, il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux, la Bible elle-même, nous met en garde dans le fait de mépriser les avertissements de Dieu. Vous connaissez sûrement ce passage d'Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Pourtant, c'est ce que Jonas a fait. Il savait que la main de Dieu avait provoqué la tempête. Il savait que la situation dans laquelle il était était le désir de Dieu. Mais il a méprisé les avertissements de Dieu. Et puis, le deuxième réflexe que l'on peut avoir, c'est le découragement. Le découragement nous affaiblit. Nous regardons à ce que nous n'avons pas. Nous regardons à ce que nous n'aurons plus. Nous montons des scénarios toujours plus compliqués sur ce qui pourrait arriver, alors que si ça se trouve, ça n'arrivera jamais. On se dit que tout est foutu, que ça ne sert plus à rien de lutter. Jonas a atteint ce niveau de détresse. Jonas a vécu ça quand il plongeait au fond de la mer. Il était persuadé de mourir. Mais parce qu'il y a toujours un « mais » avec Dieu. Dieu nous encourage aujourd'hui à avoir la troisième possibilité, la troisième réaction, celle de se soumettre à Dieu. Accepter notre situation comme une période durant laquelle Dieu veut se révéler à nous. Accepter que Dieu peut vouloir nous apprendre des choses dans cette situation. Parce que la suite du verset dit ceci, Hébreux 12, versets 6 et 7, « En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ?» Si vous étiez là à la première prédication, vous vous souvenez peut-être de cette image du joueur d'échecs professionnel qui joue avec un débutant. Le débutant fait des choix dans les échecs. Il fait des choix librement et sans contrainte, mais il fait beaucoup d'erreurs. Lorsqu'il place ses pions, il fait des choix qui sont parfois irréfléchis, qui le mettent en danger pour la suite. Mais en face de lui, le professionnel réagit complètement différemment. Il répond à chaque déplacement du débutant avec beaucoup de sagesse. Il réagit de sorte que chacun des mouvements du débutant s'inclut de manière parfaitement coordonnée avec sa stratégie. Et sa stratégie est parfaite. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Malgré nos mauvais choix, malgré nos erreurs, malgré le fait qu'on aille complètement à l'opposé de ce que lui avait prévu, Dieu déroule son plan. Dans notre folie, dans nos réactions souvent inconscientes, disproportionnées, Dieu nous amène exactement là où il veut. Et lorsqu'il nous a amenés là où il veut, il commence à nous faire expérimenter des émotions dont il va se servir pour nous amener à une délivrance. Il va nous conduire à une réflexion sur nous-mêmes. Et il va nous amener à ce que nous reconnaissions qui il est. Et que nous avons tort et que lui a raison. C'est le processus qu'il a utilisé pour Jonas, c'est le processus qu'il utilise pour nous aussi. Jonas a fini par accepter la souveraineté de Dieu dans sa vie. Il s'y est soumis. Il avait en tout cas le désir de se soumettre. Parce que Dieu seul est capable. Lui seul peut faire correctement. Lui seul sait bien mieux que nous comment nous comporter et comment affronter les difficultés. Et puis troisièmement, Dieu fait appel à notre côté spirituel. Alors, justement, après toutes ces étapes, c'est le moment que Dieu choisit, lorsqu'on accepte sa souveraineté, c'est le moment que Dieu choisit pour toucher notre cœur, notre esprit, le côté spirituel de notre être. Parce que Dieu veut atteindre notre cœur d'abord. C'est son objectif ultime. Je suis désolé de contredire peut-être ce que vous croyez, mais l'objectif de Dieu n'était pas du tout de sauver Jonas du poisson. L'objectif de Dieu n'était pas de sauver Jonas de la noyade. L'objectif de Dieu était de changer son cœur. Seulement son cœur. Et ce qui attristait le plus Dieu dans l'attitude de Jonas, c'est qu'il a cherché justement à s'éloigner de lui, à éloigner son cœur de lui. C'était ça le problème de Jonas. Alors Dieu va mettre tout en œuvre pour que Jonas retrouve cette communion avec lui, pour que Jonas retrouve cette relation intime qui était la leur avant toute cette histoire. C'est assez frappant de voir que, je ne sais pas si vous avez vu dans ce texte, mais pour Jonas, le plus important, c'est de revoir le temple de l'Éternel. On a parlé du temple ce matin pendant la louange. En fait, pour lui, le temple représente sa relation avec Dieu. Il veut revoir le temple. Et vous savez, à l'époque, pour les Juifs, le temple était évidemment le lieu que Dieu avait choisi pour être au milieu de son peuple. Et quand un juif priait, lorsque le juif était éloigné dans un autre pays ou dans une autre région, il priait toujours en direction du temple, en direction de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une pratique qui vient de la prière de Salomon, vous relirez dans 1 Roi chapitre 8, et Salomon lui-même, il parle à Dieu et il intercède pour le peuple d'Israël en disant « S'il se tourne vers ce temple que j'ai construit pour toi et qu'il te prie, écoute leur prière, viens à leur aide, pardonne-leur d'avoir péché contre toi et d'avoir désobéi. » C'était une instruction de Salomon. Alors, il ne s'agit pas, quand vous êtes chez vous, de prier en vous dirigeant vers cette église. Il ne s'agit pas de ça. Mais ce geste peut signifier pour vous que vous avez le désir d'avoir une communion avec Dieu, de vous rapprocher de lui, d'être près de lui, de sentir sa présence. Si vous n'avez pas soif de cette communion avec Dieu, alors il faut sérieusement réfléchir. Cette soif, Jonas l'a eue. Et il va même jusqu'à faire des promesses à Dieu. Franchement, s'il se sentait puni dans le poisson, s'il se sentait sur le point de mourir dans le poisson, est-ce qu'il aurait fait des promesses à Dieu ? Non ! Lorsqu'on fait des promesses à Dieu, c'est qu'on aspire et on sait qu'on va pouvoir au moins espérer les réaliser dans une vie. Voilà ce qu'a dit Jonas, verset 10, « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » On voit donc un homme, Jonas, qui expose, qui montre le côté spirituel de sa vie, de sa personne, et on voit son être intérieur profondément touché par Dieu. Et là, il n'est plus question de négociation. Jonas n'est pas en train de dire « Écoute, je vais peut-être... » Non, c'est une affirmation. Je veux revoir ton temple. Je veux rétablir cette relation que j'ai perdue avec toi. Je veux revenir. Son désir est de se soumettre à sa volonté. Mais c'est de l'intérieur du poisson qu'il fait cette prière. Il n'est pas encore sorti du poisson. Mais il sait qu'il vaut mieux être dans le ventre du poisson plutôt que de mourir dans l'eau, au fond de l'eau. C'est pas la meilleure des solutions à ses yeux, mais c'est la solution que Dieu a choisie, de le laisser 3 jours et 3 nuits dans ce poisson. Alors Jonas remercie le Seigneur de l'avoir écouté, de l'avoir fait remonter du fond du gouffre, de la mer. Jonas reconnaît par là que sans Dieu, il ne peut pas se sauver lui-même. Sans Dieu, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Alors je sais, il est 11h35, peut-être vous avez des invités à midi, et vous pensez à votre rôti qui cuit dans le four et qui va brûler, mais j'aimerais terminer par une petite réflexion qui va vous prendre quelques minutes de plus. Plusieurs d'entre nous se sont retrouvés ou sont toujours actuellement dans une situation semblable à celle de Jonas, dans le ventre du poisson. Dans des conditions, dans des circonstances de vie particulièrement désagréables, voire même de souffrance très intense. Alors si vous ne pensez pas être dans le poisson, mais plutôt en train de couler dans la mer, je voudrais vous dire et je voudrais vous certifier que Dieu ne vous a pas oublié et qu'il a prévu un plan pour vous sauver. Et je pense qu'il y a toujours, pour ceux qui lui appartiennent, un lieu où Dieu nous attend pour nous enseigner des vérités le concernant, pour nous façonner, pour nous transformer, pour nous apprendre l'obéissance. Dieu est patient et Dieu est rempli d'amour. Il est rempli de bonté, il est rempli de compassion envers nous. Ne doutez jamais de cela. Parfois, il veut produire dans nous nos vies ce qu'on ne veut pas forcément. Et ça nous entraînera peut-être à lutter avec lui, à être pas d'accord et à l'exprimer. Mais Dieu continuera à travailler au-dedans de vous, à travers ces situations, pour nous mener dans un endroit bien précis, pour que nous finissions par crier à lui. J'aimerais vous lire pour terminer un petit texte qui est en fait une conversation avec Dieu. Ce texte a été écrit par un pasteur québécois qui s'appelle Régent Demers, et ce texte m'a particulièrement touché. Je me suis vraiment trouvé dans la même situation. Ce texte m'a fait réfléchir et je voudrais vous le lire maintenant. Un jour, je me suis réveillé tôt le matin pour observer le lever du soleil. Oh, que la beauté de la création de Dieu est indescriptible. Tout en observant, je louais Dieu pour son beau travail. Comme j'étais assis là, j'ai senti la présence du Seigneur, la présence du Seigneur qui était tout autour de moi, et il m'a parlé. Il m'a demandé « M'aimes-tu ?» J'affirmais « Bien sûr, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Sauveur !» Alors il m'a demandé « Et si tu étais physiquement handicapé, m'aimerais-tu toujours ?» J'étais perplexe, j'ai alors regardé mes bras, mes pieds, le reste de mon corps et je me suis demandé le nombre de choses que je ne serais plus capable de faire. Des choses que j'avais considérées jusque-là comme normales, allant de soi. Et j'ai répondu, « Ça serait dur, Seigneur, mais je t'aimerais toujours. » Alors le Seigneur me dit, « Si tu étais aveugle, aimerais-tu toujours ma création ? Comment pourrais-je aimer quelque chose sans être capable de le voir ?» Alors j'ai pensé à tous les aveugles dans le monde et je me suis demandé combien parmi eux aiment toujours Dieu et sa création. Donc j'ai répondu, écoute Seigneur, c'est difficile d'envisager cela, mais je t'aimerai toujours. Alors le Seigneur m'a demandé, si tu étais sourd, écouterais-tu toujours ma parole ? Comment pourrais-je écouter quelque chose en étant sourd ? Alors j'ai compris. D'écouter la parole de Dieu ne consiste pas seulement à employer nos oreilles, mais notre cœur. J'ai répondu, ça serait dur, Seigneur, mais j'écouterai toujours ta parole. Le Seigneur m'a alors demandé, si tu étais muet, louerais-tu toujours mon nom ? Chanterais-tu toujours mes louanges ? Comment pourrais-je louer sans voix ? Mais alors, il m'est venu une idée à l'esprit. Dieu veut que nous chantions de tout notre cœur et de toute notre âme. Peu importe pour lui comment les sons sortent de notre bouche ou de notre cœur. Et de le louer n'est pas toujours limité à chanter. Quand on voit les peuples persécutés, ils font l'éloge de Dieu avec des paroles de remerciement, discrètement dans le secret. Donc j'ai répondu, « Quoique physiquement je ne puisse pas chanter, je louerai toujours ton nom. » Alors le Seigneur m'a demandé, « M'aimes-tu vraiment ?» Avec un grand courage et une forte conviction, j'ai répondu, « Oui Seigneur, je t'aime parce que tu es le vrai Dieu. » Je pensais avoir bien répondu. Mais Dieu m'a demandé, « Alors pourquoi pêches-tu ?» Je répondis, « Parce que je suis humain. Je ne suis pas parfait, humainement parlant. » Alors dit Dieu, « Pourquoi dans les temps où tout va bien, t'éloignes-tu de moi ? Pourquoi pries-tu sérieusement seulement dans les temps où tout va mal ?» Aucune réponse, seulement des larmes. Alors le Seigneur continua, « Pourquoi chantes-tu seulement dans les temps de communion fraternelle et au culte le dimanche ? Pourquoi me cherches-tu seulement dans les temps d'adoration ? Pourquoi demandes-tu des choses si centrées sur toi ? Pourquoi demandes-tu des choses en étant si infidèle ?» Les larmes ont continué de rouler sur mes joues. « Pourquoi as-tu honte de moi ? Pourquoi ne répands-tu pas la bonne nouvelle ? Pourquoi dans les temps d'épreuve pleures-tu sur les épaules des autres quand je t'offre mon épaule pour y pleurer ? Pourquoi te cherches-tu toujours des excuses quand je donne des occasions de servir en mon nom ?» J'essayais de répondre, mais il n'y avait aucune réponse que je pouvais donner. Je t'ai béni dans ta vie. Je t'ai béni avec des talents pour que tu puisses me servir, mais tu continues à te détourner. Je t'ai révélé ma parole, mais tu n'as pas grandi dans la connaissance. Je t'ai parlé, mais tes oreilles étaient fermées. Je t'ai montré mes bénédictions, mais tes yeux étaient détournés. Et pourtant, j'ai entendu tes prières. J'ai répondu à chacune d'elles. Alors m'aimes-tu vraiment ? Je ne pouvais pas répondre. Comment aurais-je pu ? J'étais embarrassé au-delà de ce que j'aurais jamais cru. J'avais aucune excuse. Que pouvais-je dire face à tout ça ? Après que mon cœur en eut fini de crier, que mes larmes eut fini de couler, j'ai dit « Pardonne-moi, s'il te plaît, Seigneur. Je suis indigne d'être ton enfant. » Le Seigneur a répondu « Voilà ce qu'est ma grâce. Voilà ce qu'est ma grâce, mon enfant. » Alors j'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi continues-tu à me pardonner ? Pourquoi m'aimes-tu ainsi ? Le Seigneur a répondu, parce que tu es mon enfant. Je ne t'abandonnerai jamais. Quand tu pleureras, j'aurai de la compassion et je pleurerai avec toi. Quand tu pousseras des cris de joie, je rirai avec toi. Quand tu seras abattu, je t'encouragerai. Quand tu tomberas, je te relèverai. Quand tu seras fatigué, je te porterai. Je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours et je t'aimerai pour toujours. Jamais je n'ai pleuré si abondamment auparavant. Comment ai-je pu avoir autant de froideur dans ma vie ? Comment ai-je pu blesser Dieu comme je l'ai fait ? J'ai demandé à Dieu, mais alors jusqu'où va ton amour ? Le Seigneur a avancé ses bras et j'ai vu ses mains percées. Je suis alors tombé aux pieds de Christ, mon Sauveur. Et pour la première fois, j'ai vraiment prié. Ce texte me fait me poser des questions que je me suis posées moi-même. Où est-ce que je serais si Jésus avait fui la volonté de son Père dans le jardin de Gethsémané ? Où est-ce que je serais s'il avait mis fin aux tortures qu'il subissait entre son arrestation et sa crucifixion ? Il en avait la volonté, il en avait la possibilité, pardon. Où est-ce que je serais si Jésus était descendu de cette croix ? Parce que les souffrances qu'il endurait pour nous étaient trop difficiles à supporter. Où est-ce que je serais ? Je ne serais pas là. Alors je me suis posé la question pour moi. Pourquoi attendre d'être dans le ventre d'un poisson pour accepter la volonté de Dieu pour ma vie ? Acceptons sa volonté, en croyant fermement qu'en accomplissant sa volonté, de belles et grandes choses se produiront dans nos vies, à sa plus grande gloire. Je voudrais prier pour terminer. Père céleste, écoute le cœur de tes enfants qui crient à toi. Nous sommes dans le ventre de ce poisson. Nous réalisons à quel point nous t'avons blessé par nos fautes, nos paroles, par nos erreurs d'appréciation, de jugement, par notre orgueil, notre volonté de vouloir tout maîtriser, notre volonté de te tenir tête. Et Seigneur, malgré cela, tu nous aimes. Tu as déversé ta grâce par le sacrifice de ton Fils à la croix, parce qu'il a payé à notre place alors que nous le méritions. Seigneur Dieu, je te prie pour chaque personne ici présente qui traverse une difficulté telle que Jonas l'a vécue. Ce sentiment de perdre pied, de plus savoir quel sera l'avenir, d'être dans une situation tellement inconfortable qu'on voit la mort approcher, d'être avec des pensées qui hantent nos nuits, qui nous pèsent toute la journée, nous empêchent de faire les choses correctement. Seigneur Dieu, je t'en prie, amène-nous dans le lieu que tu as prévu pour nous, pour que nous puissions nous mettre à genoux et reconnaître qui tu es, reconnaître que tu as compassion, que tu n'es pas un Dieu vengeur, méchant, qui punit, mais bien au contraire, Seigneur, qui nous amène dans des endroits pour montrer ta grâce, pour montrer à quel point tu nous aimes. Seigneur Dieu, nous avons besoin d'avoir un autre regard sur nos circonstances, sur nos vies, sur notre famille, sur nos enfants, sur notre conjoint, sur nos voisins, sur nos amis. Change notre regard, Seigneur. Change notre regard sur notre vie personnelle, sur ce que nous vivons en ce moment. Montre-nous ce que tu as à nous dire. Rends-nous aptes à t'écouter, à savoir nous mettre à genoux, en te disant, Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Nous avons besoin d'aide, Seigneur. Et nous implorons ton aide ce matin. Montre-nous ta grâce. Elle est là, elle est présente, mais nous ne la voyons pas. Alors éclaire-nous et montre-nous à quel point tu fais grâce d'abord. Seigneur, oui, je te loue et je t'adore pour qui tu es. Je veux te dire ce matin que je t'aime et que je veux continuer à te suivre malgré tout, malgré les circonstances. Je veux être le Jonas qui va vers Ninive, qui avance vers cette ville parce que tu lui as demandé de le faire. Je ne veux pas être ce Jonas qui fuit vers Tarsis. Je veux être ce Jonas qui, après avoir été craché par le poisson, va vers Ninive. Aide-moi, Seigneur, à désirer plus que tout cette communion avec toi, plus que tout d'être en direction de ton temple, de vouloir plus que tout être dans ton temple, dans ta présence, avec toi. Et montre ta gloire, Père Céleste. Montre ta gloire, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Père, je te bénis et je bénis chacun de mes frères et sœurs ici présents dans cette salle. Loué sois-tu, Père, en ton nom. Amen.